Chapitre 30. Entendant sonner une cloche, Verna s'immobilisa dans le grand couloir bordé de colonnes de marbre que Burdine et elle remontaient d'un pas décidé.
« Que se passe-t-il ? » demanda la dame abbesse. « C'est l'heure des dévotions, » répondit la mort de Cite.
Autour des deux femmes, tous les gens, où qu'ils se rendissent à l'origine, convergeaient maintenant vers l'endroit d'où montait la sonnerie de cloche. Ils ne se pressaient pas particulièrement, mais aucun ne dérogeait à la règle.
« L'heure de quoi ? » s'étonna Verna. « Des dévotions. Vous savez ce que c'est, non ?
Tu parles des dévotions au seigneur Ral ?
Oui. La cloche annonce qu'il est temps de rendre hommage au maître de Dara. »
La plupart des occupants du palais portaient une longue tunique blanche ou de couleur pastel. D'après les observations de Verna, les tenues blanches ornées de bandes dorées ou argentées était le signe de reconnaissance des fonctionnaires de divers rangs qui vivaient et travaillaient sur place. Les tuniques brodées de vert semblaient identifier les messagers, des types gonflés d'importance qui se baladaient fièrement avec leurs sacoches de cuir décorées d'un grand R tarabiscoté, le symbole de la maison Ral. Tous ces notables, ou autoproclamés tels, avançaient en continuant leur conversation en cours, comme si rien d'extraordinaire ne se produisait. Les commerçants qui tenaient les innombrables échoppes présentes à tous les niveaux du palais avaient opté pour un style de vêtements simple et fonctionnel. Maroquiniers, potiers, tailleurs, boulangers, bouchers, toute une théorie de braves gens qui équipaient ou nourrissaient les fonctionnaires et les ouvriers, du paveur jusqu'au jardinier, qui faisaient tourner l'extraordinaire mécanique du palais du peuple. Verna repéra plusieurs visiteurs humblement vêtus de leurs frusques de fermiers ou de marchands ambulants. Beaucoup étaient venus avec leur épouse et certains avaient même amené leurs enfants. La dame abbesse reconnut pas mal de personnes qu'elle avait vues en traversant les niveaux inférieurs ou sur la grande place qui accueillait le marché en plein air au pied du haut plateau où se dressait la résidence des seigneurs Ral. Pour y accéder, on devait gravir un long escalier dans les entrailles de la montagne aménagé comme une mégalopole souterraine pour dire la vérité. Les visiteurs les plus humbles venaient en général pour vendre des produits ou faire leurs emplettes, mais d'autres personnes profitaient de leur séjour au palais pour se montrer à leur avantage. D'après Burdine, ces hôtes-là louaient des chambres à la semaine ou au mois dans un des quartiers résidentiels du complexe. Les fonctionnaires et les messagers marchaient lentement. Les visiteurs, parés de leurs plus beaux atours, faisaient de louables efforts pour paraître décontractés. Non sans peine, ils parvenaient à ne pas s'extasier sur les merveilles architecturales du palais, une retenue obligatoire si on voulait passer pour un habitué des lieux. Les fermiers et les autres visiteurs de modeste extraction répondaient à l'appel de la cloche tout en regardant autour d'eux avec des yeux ronds comme des soucoupes. Ils s'extasiaient sur les colonnes, les balcons, les statues et même le sol en dalles de marbre décoré de motifs incroyablement complexes. Pour réussir un dallage pareil, avec des joints impeccables qui plus est, il fallait avoir employé les artisans les plus doués du Nouveau Monde. Verna était bien placée pour le savoir. Pendant qu'elle officiait comme dame abbesse au palais des prophètes, elle avait tenté de s'occuper du remplacement d'une partie d'un sol presque aussi impressionnant. Dans un passé assez lointain, cette zone avait été endommagée par de jeunes sorciers en formation. Les événements étaient enveloppés d'un voile de mystère et l'identité des coupables était toujours restée secrète. Après que la longueur de dallage eut été dévastée, on avait consenti à retirer les gravats, mais nul n'avait songé à réparer les dégâts, ni d'ailleurs à les faire rembourser par les responsables. Sans doute parce qu'elles culpabilisaient de devoir les retenir contre leur gré, les sœurs de la lumière faisaient montre d'une indulgence parfois coupable envers les jeunes étudiants. Verna s'était toujours indignée qu'on ait laissé les choses en l'état pendant des décennies, une façon subtile d'exprimer son désaccord face à l'indulgence en question. À part Richard et Warren, elle était la seule à avoir déploré le saccage d'une œuvre d'art si rare et si précieuse. Le sorcier pensait que les jeunes sorciers auraient dû assumer la responsabilité de leurs actes. Même s'il était lui aussi prisonnier, il ne pouvait cautionner le vandalisme. Warren partageait la position de Richard, sans doute une des raisons de leur amitié quasiment spontanée. Depuis toujours, Warren se félicitait d'être sérieux et de ne rien faire sans y accorder l'attention requise. Après le départ du futur seigneur Ral, il avait rappelé à Verna qu'elle était désormais la nouvelle dame abbesse. En clair, une personne qui n'était plus contrainte de déplorer les mauvais comportements et l'état lamentable de cette fameuse section du sol. Encouragée par le soutien de l'homme qu'elle aimait, Verna avait eu le courage d'agir selon ses convictions. De nouvelles règles avaient vu le jour et il n'aurait plus jamais été question d'y déroger. Accessoirement, ordre avait été donné de réparer enfin le splendide dallage. Après avoir tenu à superviser l'opération, Verna avait appris quelques petits détails fascinants sur les sols et sur les soi-disant maîtres carreleurs, en gros, un ramassis de vantards. Les rhodomontades étaient une chose et le talent une autre. C'était au produit fini qu'on pouvait juger un artisan. Les beaux parleurs se décomposaient quand il s'agissait de mettre la main à la pâte. Les vrais professionnels, au contraire, relevaient les défis avec enthousiasme. On ne les entendait pas bavasser parce qu'ils étaient trop occupés, tout simplement. Warren avait été très fier que la nouvelle dame abbesse s'occupe du chantier et refuse d'accepter le travail bâclé. Warren, Warren, comme il manquait à Verna. Distraitement, elle regarda autour d'elle, dut reconnaître que l'architecture était fabuleuse, et savoua immédiatement qu'elle n'en avait rien à faire. Depuis la mort de Warren, tout lui semblait sans intérêt ni importance. La vie elle-même lui paraissait d'une affligeante inutilité. Partout dans le palais, des soldats patrouillaient en se fichant probablement comme d'une guigne des efforts que la construction d'un tel chef-d'œuvre avait coûté à des générations d'architectes, d'artisans et d'ouvriers. Pourtant, malgré leur indifférence, ces hommes contribuaient à la défense et à la préservation du palais du peuple. Comme tous ceux qui les avaient précédés au fil des siècles, ils étaient partie prenante d'une aventure qui les dépassait et les grandissait en même temps. Curieuse de tout, Verna avait noté que les patrouilles se composaient au minimum de 2 hommes. Les plus importantes pouvaient en compter 50. Armés au minimum d'une épée, mais très souvent d'une hallebarde ou d'une pique en plus, les jeunes et vaillants soldats d'Aran se tenaient tous bien droits dans leur bel uniforme et leurs cuirasses renforcées de plates de fer aux endroits les plus vulnérables. Une arbalète sur l'épaule, des gardes spéciaux qui portaient des gants noirs surveillaient sans cesse les balcons et les couloirs. Des tireurs d'élite, essentiels pour la sécurité d'un complexe si vaste et truffé de possibles cachettes. « Richard m'a parlé des dévotions, » dit enfin Verna. « Mais je m'étonne qu'elles aient lieu même lorsque le seigneur Hall est absent, surtout depuis que c'est Richard, votre nouveau maître. » La dame abbesse n'avait pas voulu être blessante, mais ses paroles, force était d'en convenir, pouvaient être prises de travers. Richard ne faisait sûrement pas un mauvais seigneur Hall, mais, eh bien, c'était Richard, voilà tout, un homme à part sous d'innombrables aspects. « Un seigneur Hall est un seigneur Hall. » déclara Burdine, choqué par les propos de Verna. « Et le lien reste très fort, que notre maître soit là ou pas. Les dévotions ont lieu régulièrement, même quand le seigneur Hall s'absente. Et quoi que vous pensiez de lui, Richard Hall est un formidable seigneur. C'est le premier que nous respectons ainsi. Du coup, les dévotions ont plus de sens que jamais, et elles sont devenues encore plus importantes qu'avant. » Verna ne fit pas de commentaire, mais elle gratifia Burdine d'un regard à un rien condescendant. En tant que sœur de la lumière, et plus précisément en tant que dame abbesse, elle avait une vision très distanciée de la politique. Les peuples avaient besoin de chefs, elle voulait bien l'admettre, mais sur l'échelle hiérarchique de l'univers, les empereurs et les rois passaient après les gens qui militaient pour accomplir la volonté du Créateur. Durant les siècles qu'elle avait vécu au palais des prophètes sous la protection d'un sort temporel, Verna avait assisté à l'ascension et à la chute de dizaines de monarques charismatiques. Aucune sœur ne s'était jamais inclinée devant un de ces pantins qui croyaient dominer l'histoire alors qu'ils en étaient les jouets impuissants. Verna doucha son propre enthousiasme en se rappelant que le palais n'existait plus. Désormais, presque toutes les sœurs étaient prisonnières de Jagang. Burdine fit un grand geste circulaire. « Tout a changé ici. » Et c'est grâce au nouveau seigneur Hall. Il nous a rendu une véritable patrie, et grâce à lui, nous avons une chance de vivre en sécurité. Il est la magie qui affronte la magie. Nos anciens maîtres tenaient les dévotions pour un témoignage de soumission. Ils se trompaient. En réalité, il s'agit d'une marque de respect. Verna eut quelque peine à contenir son agacement. Burdine ne parlait pas d'un chef mythique ni d'un vieux roi très sage. Il était question de Richard. Même si elle reconnaissait sa valeur, la dame abbesse n'oubliait jamais qu'il était à l'origine un humble guide forestier. Comme souvent, cette réflexion peu amène fut aussitôt suivie d'une poussée de culpabilité. Pourquoi avoir de mauvaises pensées sur Richard, un garçon qui combattait pour une cause qu'il estimait juste? Afin de triompher, il avait plus d'une fois mis sa vie dans la balance. En outre, les prophéties le présentaient comme l'élu. Il avait été nommé sourcier et ses principales actions, surtout depuis qu'il dirigeait Dara, avaient mis le monde sans dessus-dessous. Grâce à lui, Verna était devenue la dame abbesse des Sœurs de la Lumière. Savoir si c'était un bien ou un mal restait une autre histoire. Quoi qu'il en soit, Richard était pour de bon le dernier espoir du monde libre.
« S'il ne nous rejoint pas avant la bataille finale, » marmonna Verna, « il ne restera plus personne pour le respecter. »
Burdin se décrispa un peu. Sans crier gare, elle repartit et s'engagea dans un couloir sur la gauche. Elle aussi voulait répondre à l'appel de la cloche.
« Nous sommes l'acier qui s'oppose à l'acier, » dit la mort de Sith, « et le seigneur Hal se charge de la magie. » S'il ne vient pas ici, c'est sans doute parce que son devoir, nous protéger des sortilèges ennemis, le retient loin de nous. Des justifications sans queue ni tête,
grogna Verna en allongeant le pas, histoire de rattraper la mort de Sith.
Où cours-tu ainsi, Burdin? Au palais, tout le monde fait ses dévotions. Nous n'avons pas de temps à perdre en enfantillage. Les dévotions sont une composante essentielle du lien. Vous devriez m'accompagner, ça ne pourrait pas vous faire de mal.
Immobile dans l'immense couloir, Verna regarda la mort de Sith s'éloigner à un train d'enfer. Elle se souvenait très bien de l'époque où le lien entre Richard et son peuple avait été coupé. Cela n'avait pas duré très longtemps, mais tous les fidèles du seigneur Hal avaient été privés de sa protection. Profitant de l'occasion, Jagang s'était infiltré dans les rêves de Verna pour la capturer. Il avait également pris le contrôle de Warren. Être la marionnette de l'empereur avait horrifié la dame abbesse, et savoir que son bien-aimé subissait le même sort décuplait sa souffrance morale. Jagang s'était emparé de leurs deux vies, les privant de la liberté de penser et d'agir. Se substituant à leur volonté, il avait transformé Verna et Warren en esclaves, et lorsqu'il était mécontent, il n'hésitait jamais à faire souffrir ses marionnettes. Repenser à tout ça fit monter des larmes aux yeux de Verna. Elle les essuya rapidement et accéléra encore le pas. Pour ne pas s'égarer dans le palais où elle avait encore mille choses à faire, la dame abbesse avait besoin d'un guide. Si elle avait pu accéder à son Han, la situation aurait été très différente. Hélas, entre ses murs, son pouvoir, affaibli par des contre-sortilèges, n'aurait pas suffi à allumer une bougie. Pour l'heure, accompagner Burdin à ses absurdes dévotions semblait être le meilleur moyen de perdre aussi peu de temps que possible. À condition que la ridicule cérémonie ne dure pas trop longtemps, la dame abbesse et sa compagne en reviendraient très vite à leurs occupations, et ce serait déjà un bon résultat. Le couloir qu'avait emprunté Burdin conduisait à une imposante passerelle, à la balustrade en marbre gris veinée de blanc. À la sortie de ce passage, sur une grande place à demi couverte, se dressait ce qu'on nommait une cour de dévotion. La cloche qui appelait les sujets du seigneur Hal était placée au-dessus d'un gros rocher entouré par les eaux limpides d'un bassin. Quelques gouttes d'eau tombaient dans l'onde paisible. Levant les yeux, Verna vit que le centre de l'immense voûte était ouvert, laissant ainsi passer la lumière et le crachin. Le sol de la cour de dévotion était très légèrement incliné, afin d'assurer le drainage des eaux de pluie. Si invraisemblable que cela pût paraître, cette petite place, bien que nichée au cœur du complexe, était une sorte de jardin extérieur. Partout, les gens s'agenouillaient face à la cloche, le front plaqué sur le carrelage du sol. La mauvaise humeur de Burdin s'était évaporée depuis que Verna avait décidé de l'accompagner. Avec un grand sourire, elle fit un geste des plus étranges, tendre un bras et prendre la main de la dame abbesse.
« Venez, » dit-elle, « approchons du bassin. Il y a des poissons dedans. » « Des poissons ?»
Le sourire de la mort de Sith s'élargit.
« Oui, j'adore les cours de dévotion où on voit des poissons. »
Lorsque les deux femmes se furent frayées un chemin jusqu'au bassin, Verna distingua les bancs de petits poissons oranges qui sillonnaient les eaux parfaitement claires.
« Ils sont jolis, n'est-ce pas ?»
demanda Burdin.
De nouveau, elle ressemblait à une petite fille. « Ce sont simplement des poissons ?»
lâcha Verna, pas du tout enthousiaste. L'air dépité, Burdin s'agenouilla entre deux personnes qui s'étaient écartées pour lui faire de la place. À l'évidence, tout le monde ici respectait la mort de Sith, ou plutôt la redoutait. Si les gens n'osaient pas fuir, ils essayaient ostensiblement de se tenir le plus loin possible d'elle. À l'évidence, l'étrange femme qui accompagnait Burdin les inquiétait aussi. Pensait-il qu'elle était une pécheresse repentie sur le point de recevoir un sanglant châtiment? La mort de Sith jeta un regard perçant à la dame abbesse, puis elle posa les mains à plat sur le sol, s'agenouilla et baissa la tête. Verna comprit que Burdin l'avait invitée à se prosterner. Un ou deux gardes patrouillaient parmi les fidèles sujets de Richard et eux aussi regardaient avec insistance la dame abbesse. Mais enfin, c'était absurde. Verna dirigeait les Sœurs de la Lumière. Elle faisait partie des conseillers privés de Richard et elle comptait également au nombre de ses amis intimes. On ne pouvait pas lui demander de se mettre à genoux pour chanter ses louanges. Hélas, les gardes ignoraient tout de ses rapports privilégiés avec le seigneur Rall. Dans ce palais, la magie de Verna se réduisait à trois fois rien. Le palais du peuple était en réalité un sortilège géant, dessiné sur le haut plateau. Conçu pour renforcer le pouvoir des Rall, il faisait également fonction d'éteignoir sur celui de leurs concurrents. Avec un soupir, Verna s'agenouilla et plaqua le front sur le carrelage. L'ouverture de la voûte se trouvant à l'aplomb du bassin, la pluie ne tombait pas sur la majorité des suppliants. Placée très près de l'eau, Verna eut droit à une aspersion qu'elle trouva bizarrement rafraîchissante, une réaction somme toute logique pour une personne dont le sang bouillait de colère. « Je suis trop vieille pour ces âneries !» souffla Verna à Burdin. « Allons, dame abbesse, vous êtes dans la force de l'âge. » Verna soupira de plus belle. À quoi bon faire remarquer qu'il était ridicule de se prosterner pour passer la brosse à reluire à un homme qu'elle vénérait déjà de bien des façons? Cela dit, ce rituel était plus que ridicule. Un summum d'imbécilité et une abominable perte de temps. « Maître Rall nous guide !» entonnèrent les sujets de Richard. Bien qu'elle eût le front plaqué sur le sol, Burdin parvint à couler un regard furibard à Verna. Accablée, la dame abbesse adopta la position requise et elle consentit à répéter la flagornerie en cours.
« Maître Rall nous protège !»
Le jour où elle avait prêté serment à Richard pour échapper à l'emprise mentale de Jagang, Verna avait prononcé les quelques phrases que les Darans, chaque jour, répétaient pendant des heures. Mais à l'époque, ce rituel avait un sens et un objectif, alors que là...
« Maître Rall nous guide, Maître Rall nous dispense son enseignement, Maître Rall nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions. » Devant sa sagesse, nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. De bien belles paroles. Mais s'il ne se dépêchait pas de revenir, Richard n'aurait bientôt plus personne à guider, à éclairer de ses lumières ou à protéger.
L'assistance reprit en chœur la lancinante prière.
Maître Rall nous guide, Maître Rall nous dispense son enseignement. Maître Rall nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. « Combien de fois allons-nous devoir rabâcher ça ?» demanda Verna à Burdin.
La mort de Sith foudroya du regard la dame abbesse.
De nouveau la petite fille avait disparu pour être remplacée par une femme autoritaire dont les yeux semblaient pouvoir tuer aussi facilement que des poignards.
Verna connaissait la musique, car elle recourait à la même méthode pour terroriser les novices indisciplinés et les jeunes sorciers peu coopératifs. Se sentant mortifiée, comme si elle était justement redevenue une novice, Verna récita.
« Maître Rall nous guide, Maître Rall nous dispense son enseignement. Maître Rall nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions. » Devant sa sagesse, nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent.
Dans la cour de dévotion, les voix des dizaines de zélateurs du seigneur Rall composaient une étrange mélodie à mi-chemin entre la berceuse et la prière. Secouée par la façon dont Burdin l'avait regardée, Verna décida d'oublier momentanément son rang et ses liens d'amitié avec Richard. Résignée, elle récita plusieurs fois les dévotions. Après quelques minutes, elle se mit à réfléchir au sens de ses phrases. Pour être honnête, ce texte n'était pas si ridicule que ça. Depuis qu'elle connaissait Richard, Verna avait changé d'avis sur beaucoup de choses, même la mission des Sœurs de la Lumière, incarcérer de jeunes sorciers pour les former, lui semblait maintenant contestable. Au contact du sorcier, Verna avait remis en question tout ce qui méritait de l'être, et elle ne voyait plus du tout la vie de la même façon. Sans lui, son amour pour Warren aurait-il éclaté au grand jour? Elle en doutait parce que c'était grâce à lui qu'elle avait redécouvert la beauté de l'existence. En ce sens, il lui avait fait le plus beau cadeau qu'elle eût jamais reçu. « Maître Ral nous guide, Maître Ral nous dispense son enseignement, Maître Ral nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. » Verna prit conscience qu'elle se sentait seule au milieu de cette foule en adoration. Warren lui manquait et aucune autre présence ne pouvait combler ce vide-là. Pour survivre, elle avait enfermé son chagrin derrière d'épaisses murailles, afin de le dissimuler à la vue des autres. En procédant ainsi, elle espérait s'aveugler sur ses propres sentiments. Mais en cet instant, alors que la foule répétait inlassablement les dévotions, toutes les défenses de la dame abbesse s'écroulaient. Verna lui manquait et elle l'aimait toujours autant. Ce qu'elle avait vécu avec lui était la meilleure part de sa vie. Maintenant, elle restait seule avec un héritage à la fois merveilleux et écrasant. Les jours heureux ne reviendraient plus. Avant la mort de Warren, Verna aurait trouvé cette phrase d'une banalité affligeante. Mais quand on vivait dans cette banalité, elle se révélait sacrément dure à avaler. « Maître Ral nous guide, Maître Ral nous dispense son enseignement, Maître Ral nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. » Une image revint flotter devant les yeux de Verna. Le visage cendreux de Warren, lorsqu'elle avait embrassé pour la dernière fois le jour de sa mort. Le pire moment de son existence qui n'avait pourtant pas toujours été facile. Et malgré les mois écoulés depuis cette journée maudite, on eût dit que tout cela s'était produit la veille. Parfois, Warren lui manquait tellement qu'elle en avait mal dans tout le corps. « Maître Ral nous guide, Maître Ral nous dispense son enseignement, Maître Ral nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. » À force de répéter ces mots ridicules, Verna les investissait de sentiments qu'elle refoulait depuis des mois. Des larmes trop longtemps contenues ruisselèrent sur les joues de la dame abbesse. Les dernières paroles de Warren remontèrent à sa mémoire. « Embrasse-moi tant qu'il me reste un souffle de vie. Surtout ne pleure pas sur ce qui se termine, mais réjouis-toi en pensant à ce qui a été. Embrasse-moi, ma chérie. » Et maintenant, que lui restait-il? Son univers s'était désintégré et elle n'avait plus aucune envie de vivre. « Maître Ral nous guide, Maître Ral nous dispense son enseignement, Maître Ral nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. » Verna récitait les dévotions entre deux sanglots, et elle ne s'inquiétait pas de savoir si quelqu'un la regardait. D'habitude, elle s'interdisait de craquer en public. Tout ça était tellement absurde. Un jeune bon à rien, sans foi ni loi, un être inutile, y compris et surtout pour lui-même, avait tué Warren pour prouver sa loyauté à l'ordre impérial. À coup sûr, ce crétin ne comprenait rien à la philosophie de Jagang, et il aurait été incapable de dire pourquoi il combattait dans un camp plutôt que dans un autre. Avec sa vénération du sacrifice altruiste, l'idéologie de l'ordre justifiait tout simplement que des êtres de valeur disparaissent au profit de parasites. Richard combattait pour mettre un terme à cette folie. Il s'opposait à la brutalité aveugle de Jagang et luttait inlassablement pour que l'horreur et la violence cessent enfin de séparer les gens qui s'aiment.
Il comprenait en profondeur le chagrin de son ami.
Se laissant emporter par le rythme fascinant de l'incantation, Verna s'avisa que le sourcier défendait les valeurs qu'elle chérissait plus que tout.
Il était le champion de l'honnêteté, du courage et de la lucidité.
Vénérer un tel homme n'avait rien de blasphématoire. En réalité, il n'y avait rien de plus logique, car à travers lui, c'était la vie qu'on adorait. Richard avait été le premier ami de Warren. Forçant celui qu'on surnommait la taupe à sortir des catacombes, il lui avait fait découvrir le monde. Warren aimait Richard. Alors que les échos de l'incantation l'emportaient sur leurs ailes, Verna eut le sentiment qu'un rayon de soleil venait de percer les nuages pour lui caresser les joues. Une douce lumière l'enveloppait et une tendre chaleur envahissait son âme. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit en paix.
Maître Oral nous guide. Maître Oral nous dispense son enseignement. Maître Oral nous protège. À sa lumière, nous nous épanouissons. Dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons. Nous existons pour le servir, et nos vies lui appartiennent.
À présent, les paroles des dévotions, magnifiées par la ferveur de tous ceux qui les prononçaient, mettaient du baume au cœur de Verna. Se sentant partie prenante d'une communauté, un sentiment qu'elle n'avait plus éprouvé depuis le jour mille fois maudit, elle répéta les phrases qui prenaient désormais un sens nouveau à ses oreilles. Depuis la mort de Warren, Verna avait cessé d'aimer la vie. Et là, dans cette cour baignée de soleil, elle réapprenait à la voir sous un jour moins noir. Oui, c'était cela. Les couleurs revenaient peu à peu. La joie était encore loin, mais elle ne semblait plus inaccessible. Comme s'il existait désormais pour Verna un chemin qui conduisait à la vie, au renouveau et à Warren. Pas dans le sens où elle le retrouverait un jour sous la douce lumière du Créateur, une éventualité qu'elle ne refusait pas mais qui semblait bien improbable.
Non, désormais elle cheminerait vers ce qu'il y avait en elle de Warren, cet héritage qu'il lui avait laissé et qu'elle ne trouvait plus du tout écrasant.
Un instant, elle crut sentir à côté d'elle la présence de l'homme qu'elle aimerait jusqu'au trépas. Soudain, la cloche sonna deux fois, marquant la fin des dévotions. Mais ce qui venait de naître en Verna n'était pas prêt de finir. La dame abbesse sentit une main se poser sur son épaule. Levant les yeux, elle vit que Burdine lui souriait. Tous les autres suppliants étaient partis. À part la mort de Sith, il ne restait personne dans la cour.
« Dame abbesse, vous allez bien ?»
Verna se redressa à demi.
« Oui, oui. Mais je me sens si apaisé sous ce soleil. »
Les sourcils froncés, Burdine jeta un rapide coup d'œil au bassin et constata qu'il pleuvait de plus en plus fort.
« Dame abbesse, le ciel est couvert et il tombe des cordes. »
Verna se leva et regarda autour d'elle.
« Mais j'ai senti la chaleur et j'ai vu la lumière. »
Burdine sembla soudain comprendre ce qui arrivait à sa compagne.
« Je vois ce que vous voulez dire. »«
Vraiment ?»«
Les dévotions sont souvent une occasion de penser à sa vie et d'éprouver une étrange forme de réconfort, comme si un être aimé revenait entre les morts pour vous consoler. »
Verna étudia un moment le sourire plein de tendresse de la mort de Sith.
« Tu as vécu cette expérience ?»
Des larmes aux yeux, Burdine hocha simplement la tête.